les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les héroïnes, une heure avec des meufs. Aujourd'hui, en cette fin d'année qui fut, comment dire, mouvementée, pas vraiment tendre pour les femmes, loin de là, encore et toujours, eh bien en cette fin d'année, je vous propose d'écouter un documentaire et une interview. Le documentaire s'intitule « Collage féministe » et il a été réalisé par Marie Bobichon. L'interview, elle, c'est celle de Marie-Paul Bernicot, coordinatrice de la filière Endo-Braise. Une interview réalisée par Lucie Loipre, journaliste et productrice de l'émission d'info locale L'Arène, tous les jours à 17h sur cette même antenne. On l'écoutera un peu plus tard, cette interview, parce que pour l'instant, on va à Saint-Étienne, Saint-Té pour les intimes, pour suivre un collectif de coloreuses avec Marie Bobichon. Marie Bobichon, elle est titulaire d'un Master 2 en études de genre. Elle étudie notamment l'histoire des cinémas féministes et lesbiens. Alors Marie, elle est actuellement à l'école documentaire de l'USAS, où elle se forme à la réalisation documentaire. L'USA, je ne sais pas si je prononce bien, eh bien c'est entre Privas et Vallon-Pont-d'Arc, en Ardèche donc, et le réseau passe mal, voire ne passe pas certains jours, donc impossible de joindre Marie, on a procédé autrement. Lors d'un stage à Radio Dio à Saint-Étienne, Marie a donc réalisé ce documentaire radio auprès des coloreuses stéphanois et stéphanoises. Alors coloreuse, c'est un néologisme inclusif, n'en déplaise aux académiciens et aux chefs de l'État, utilisé pour désigner les personnes qui collent des messages féministes et qui ne se genrent pas au féminin. Le collage féministe est une forme de militantisme somme toute assez récente en fait, puisqu'elle date des années 2016-2017 et qui est considérée par le code pénal comme de la dégradation légère de bâtiments et par conséquent, régulièrement, des coloreuses finissent en garde à vue. Marie me disait que c'est déjà arrivé aux stéphanois et stéphanoises, même si c'est très rare, car en fait l'action des coloreuses est contrôlée et surveillée par la police pour qu'elles ne prennent pas trop de place dans la ville, cette action. Mais les coloreuses sont aussi infantilisées et méprisées dans leurs actions par cette même police. Selon Marie, c'est parce que ce sont des actions en non-mixité et que donc la police ne les prend pas au sérieux. L'objectif des forces de l'ordre est de faire en sorte que les collages soient le moins visibles possible et durent le moins de temps possible. La police intervient donc beaucoup plus dans les centres-villes et près des bâtiments fréquentés ou institutionnels. Pour organiser un collage, il y a une première rencontre pour choisir et écrire les slogans sur des feuilles A4. Marie me raconte qu'ensuite, il faut faire la colle et se donner rendez-vous à la nuit tombée. Mais que le choix du lieu ou des lieux et des murs se fait seulement sur le moment, selon les slogans choisis et selon le monde qu'il y a dans la rue pour éviter les rageux. Vous l'entendrez d'ailleurs dans le documentaire, les gens, voire les mecs, agressifs, voire violents. Concernant l'impact des collages, Marie pense que c'est un mode d'action très puissant, puisqu'on sait que l'une des manières de résister au patriarcat, c'est de nommer les oppressions qu'on subit. Les coloreuses énoncent ces violences dans l'espace public, ce qui est très fort. Ce qui a pu être mesuré, c'est l'impact des collages dans la lutte contre les féminicides. Et là, c'est très important, car en collant le nom des victimes sur les murs pendant des mois, les coloreuses ont démontré le caractère systémique des meurtres de femmes, des meurtres de ces femmes-là. Le terme « crime passionnel » a été remplacé par « féminicide » et des mesures ont été prises pour lutter contre. Et ça, c'est une victoire permise par les collages. Et enfin, à ma dernière question qui était de savoir si les collages féministes qui font aujourd'hui partie du paysage urbain sont une victoire pour les collectifs de coloreuses, Marie répond que cette question, en fait, elle peut se poser à toute forme d'action dans les luttes féministes. Comment faire entendre nos revendications mais ne pas perdre en radicalité? Comment populariser nos actions tout en maintenant leur impact politique? La popularité des collages est bien sûr une bonne chose et il n'y en aura jamais trop. Mais leur impact tient aussi peut-être à la réappropriation que les coloreuses font de l'espace public, au fait qu'elles révèlent que c'est un espace fait de rapports de force dans lequel il faut faire irruption de manière illégale pour pouvoir s'y exprimer quand on n'est pas un homme cisgenre, blanc et bourgeois. Pour que les collages restent ce mode d'action puissant, il faut être vigilant et vigilante à toute forme de récupération commerciale ou raciste de cette lutte. Le collectif de Saint-Étienne l'a bien compris, puisqu'il se définit comme antiraciste, antifasciste et anticapitaliste, en plus d'être féministe.
Je fais une deuxième ligne là. On justice nulle part. Il n'y a personne.
Si.
Attends, je vais sur la deuxième ligne.
J'ai même pas de tête.
Les paillettes, la rage, c'est pas mal ça.
Allez, vous prenez des fiertés.
Perdre aux émissions, c'est cool.
Nous, on est le collectif des collages féministes de Saint-Étienne. Alors, on fait des collages pour dénoncer toutes les sortes de domination du patriarcat dans la société, même un peu toutes les sortes de domination, aussi capitaliste ou coloniale. On colle sur plein de thématiques donc avec ces thèmes, mais surtout en fonction des personnes parfois présentes, en fonction de leur ethnicité, de leur revendication sexualitaire, enfin d'identité au niveau de leur sexualité, etc. Donc chacun, chacune essaye aussi parfois d'utiliser son expérience pour proposer des slogans. On a aussi déjà collé des témoignages. D'ailleurs, il y en a un qui s'était pas très bien passé, mais voilà. Et moi, ça fait, je ne sais plus, ça fait 2 ou 3 ans que je suis dans le collectif. Je suis un peu perdue dans l'espace-temps. Mais je suis en ce moment celle qui est là depuis le plus longtemps.
Alors, les collages, si je me souviens bien, je crois que c'est né en 2019 à Paris. C'était surtout pour dénoncer les féminicides à la base, et donc ça s'est né à Paris en 2019, et après ça s'est diffusé dans plusieurs villes. Maintenant il y en a dans toutes les grandes villes et même les petites villes, en fait il y en a partout. Et après, oui, il y a des spécificités, il y a des groupes, des collectifs de collage qui sont plus ou moins intersectionnels, donc il y a des groupes qui peuvent être transphobes ou abolitionnistes. Ça existe à Avignon notamment, je sais qu'il y a un groupe comme ça. Et après, ça dépend en fait, dans chaque ville il y a ses spécificités. J'ai collé à Dijon, j'ai collé à Nantes, c'était pas du tout le même fonctionnement, à Strasbourg non plus. Et je dirais que le collectif de Saint-Étienne, il est plutôt, il est carrément politisé, plutôt je dirais antifasciste. On l'exprime, c'est pas exprimé directement, mais dans ce qu'on colle, ça rejoint l'antifascisme. Et on ne fait pas que ça, on se rejoint pour d'autres choses, on fait d'autres actions, que ce soit direct ou indirect, mais en tout cas, on ne fait pas du collage et ça, ce n'est pas non plus dans tous les collectifs.
On a la place, là.
La violence de l'État comme preuve de sa faiblesse.
Oh, là, sur le boulevard.
Ah ouais, grave. Ok, bon,
je crois que là,
on veut... Sur le boulevard, il est long.
On veut vite.
On est un collectif intersectionnel parce qu'on voilà, on lutte contre toutes les formes de domination et pas seulement certaines ou celles de femmes cis blanches, hétéros, qui pourraient voilà, être un peu plus lambda dans le féminisme. Donc on essaye voilà, d'être le plus déconstruit aussi possible, même si après, quand les gens arrivent, on est tous et toutes à des étapes... de déconstruction différente, mais les collages, en tout cas, sont un vrai... Enfin, dès que tu arrives dans le collectif, tu as un vrai, une vraie déconstruction, et souvent, c'est comme je dirais, c'est un petit stage de vie très rapide, parce qu'il y a des profils, il y a plein de profils différents, et comme on se voit assez souvent, et que des fois, on devient très vite aussi amis avec certaines personnes, on se dirait qu'on se déconstruit très vite.
On a un groupe en mixité choisi. Donc ça veut dire que on a un collectif où il y a toutes sortes de personnes, enfin toutes personnes, sauf des mecs cis. Donc il y a des personnes transgenres, des personnes cisgenres, enfin des meufs cisgenres et des personnes non binaires.
Du coup, quand on a repris, enfin qu'on a essayé de faire une charte claire pour justement se positionner par rapport à Marguerite Stern et les collages. Féminicide de Paris, de partout, qui avait été lancé en 2019 ou 2018, je ne sais plus. Eh bien, nous, on a changé de nom. Du coup, maintenant, ça s'appelle Collage Féministe Saint-Étienne. C'est plus, enfin, pour nous, c'est plus inclusif parce qu'on ne colle pas uniquement sur les féminicides, même si ça reste un sujet encore important, pour que ce soit plus, voilà, plus inclusif et qu'on montre qu'on touche d'autres sphères que celle-ci et surtout qu'on se désolidarise complètement de Marguerite Stern, de ses propos transphobes, parfois racistes aussi, et qui peuvent être très problématiques parce qu'elle s'approprie aussi un peu les collages alors que c'est une forme de militantisme qui a toujours existé, et même si elle a été une des premières à en faire. Enfin, nous, en tout cas, on ne veut pas y être... On veut pas y être, je sais pas comment dire, associé, oui. Voilà.
On aurait dû être la rage en rouge.
J'avoue.
Bon, je crois qu'il y a beaucoup
de... On aurait pu mettre des paillettes aussi,
mais bon. Hein ?
Alors, on soit obligé d'utiliser le collage parce que, pour plusieurs raisons, déjà, ça permet de se réapproprier l'espace public. Et surtout la nuit, quand on colle la nuit, ça permet aussi de se réapproprier l'espace public la nuit. Et qui plus est, en groupe de personnes sexisées. Et aussi parce qu'en fait, ça se voit. Enfin, c'est des messages qui se voient, qui sont temporaires, qu'on peut décoller facilement. Donc il y a moins de risques d'amende.
Ça, c'est un outil pratique parce que disons que la différence avec le tag, c'est que déjà, on a beaucoup moins de risques judiciaires. Il y a un peu un flou juridique dans la loi. Alors, peut-être qu'ils l'ont amélioré depuis que les collages se sont mis en place. Parce que... Mais en fait, disons que tu risques pas grand-chose si tu fais des collages. Tu peux risquer après des violences policières, autre chose, des gardes à vue. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en termes de la loi... t'as un flou juridique où tu peux aller de, je crois que c'est 69€ ou 68€ le collage, entre guillemets, mais c'est très très rare qu'ils te mettent une amende pour ça, et en fait c'est vu comme la dégradation légère, donc en fait c'est beaucoup moins violent, ou ça peut être beaucoup moins problématique au niveau de la loi qu'un tag ou autre chose. Donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est plus accessible et qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui le font. Et moi, en tout cas, je trouve que le fait de mettre des feuilles, c'est quelque chose de collectif, parce qu'il faut mettre la colle, il faut poser les feuilles, il faut réfléchir collectivement. Donc je trouve que c'est mieux que juste un tag où, par exemple, on est seul, même si le tag est très politique aussi sur d'autres endroits. Mais je trouve que le tag peut être un peu plus individualiste ou juste, peut-être il peut être pensé collectivement aussi, mais les collages, voilà, c'est vraiment une organisation spécifique qu'il faut un minimum avoir. Donc pour moi, c'est un outil de lutte assez important.
Très haut, et elle va faire plusieurs lignes. Genre, très violeur, haut. Hors de nos rues, genre, tu vois.
Moi, je suis pas très bien, là.
Tu veux, vas-y, je cote.
Mais il n'y a personne qui recolle derrière moi.
Non, elle a une prête des sous et moi
je vais. Ce qu'on aime faire, alors ça, c'est un peu, ça dépend un peu de chaque personne, mais nous, comme on est un collectif, on aime bien se retrouver pour faire des sessions peinture où une personne du collectif propose chez elle un lieu ou un autre lieu. On a déjà peint un peu dehors, mais bon. Entre le vent et les gens, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire forcément en public, mais on l'a déjà fait par exemple dans des endroits collectifs aussi, à la Gueule Noire, enfin à des endroits aussi plus autogérés. Et souvent, donc, on peint une dizaine de slogans, enfin, on se retrouve entre nous, souvent c'est un apéro, on discute, et puis après on se fait une petite liste de slogans.
Chacun, chacune s'occupe de. D'un slogan, qui, soit qui le touche, qui elle la touche, soit qui elle a envie de peindre. Et des fois aussi, tu vois, quand il y a une personne qui nous dit « Ouais, moi j'ai un slogan, j'ai trop envie de le coller », du coup, on lui garde aussi dans le sac. Parce qu'après, du coup, quand on a peint, on fait sécher, on trie tout ça, et en fait, on se retrouve, quand c'est possible, pour aller coller nos slogans.
Et soit on prend des. Quand il y a de l'actualité, on écrit sur l'actualité. Et après, il y a des messages qui reviennent souvent, quoi. Des messages qu'on met tout le temps, le sexisme tue, anti-patriarcat, des choses comme ça, quoi.
On en a plein, hein. Oh là là,
ça va,
si tu veux.
Bah, si.
Vas-y, dis-nous tout.
Père de Rio d'émission. Oh. Tu vois, c'est pas du tout.
L'État ne nous protège pas. Hétéro-overdose. Bravo les lesbiennes.
Cuir et fier.
Anonyme dans l'histoire, était une femme.
Confronte ton corps violeur. Darmanin dégage. Cannes déroule le tapis rouge pour les agresseurs.
Respecte-nous.
Violeur hors de nos rues. Violence policière accablante. Arrêtez de capitaliser sur nos luttes. On veut pas bosser plus, on veut vivre mieux.
Merde. C'est quoi la violence de l'État comme preuve de sa faiblesse. Il est en A3
Okay.
Il est énorme.
Ok. Mais bon.
Alors il est petit.
On peut peut-être mettre hétéro. C'était quoi déjà?
Darmanin dégage. Allez, go.
Les mots viol, les mots inceste, je pense que ça violente pas mal de monde. Et du coup, on essaie de ne pas les coller sur des habitations de particuliers, plutôt sur des murs neutres, enfin, si on peut appeler ça des murs neutres, mais pour pas qu'on se dise... Enfin, tu vois, si un ou une voisine descend et voit, je sais pas, violeur, on te voit sur son mur, et que, enfin, je sais pas, la personne, ça peut lui renvoyer, je sais pas, soit des trucs horribles, soit des trucs... Enfin, je sais pas, ça peut être... on n'a pas envie de mettre personne en... Enfin, personne, si... plein de gens en porte-à-faux, mais pas forcément des personnes lambda qui n'ont rien demandé et qui sont tranquilles dans leur petite vie.
Dans mes expériences de collage, soit les personnes viennent nous demander pourquoi on colle ça, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça peut être des questions bienveillantes. Et des fois, c'est des gens qui sont hyper énervés, qui veulent qu'on décolle, machin. Et puis des fois, c'est la police qui arrive. Et donc ça dépend, des fois ça se passe bien, c'est le contrôle d'identité, demande de décoller. Mais il y a des cas où il y a ces gardaves. Et il y a, ouais, et y a des, les coloreuses de Montpellier, elles se sont faites foncer dessus par un mec en voiture. Et donc il y a plusieurs coloreuses qui ont été blessées, qui sont à l'hôpital.
Mais pas par la police?
Non, par un mec lambda. Ouais. Et il y a un procès, alors je crois qu'il est passé, mais à Nantes, il y a des coloreuses qui ont été en procès. Et une autre ville encore, alors je sais, bah Strasbourg, je crois. Il y a eu un procès à Strasbourg aussi. Donc c'est pas, en fait, coller, c'est pas sans danger. C'est, il y a toujours, quand tu veux intégrer le collectif, t'as toujours, comment dire, une rencontre qui explique les risques que t'encours à coller dans la rue, parce qu'en fait, c'est illégal.
Il y a quelques semaines, apparemment, il y a quelqu'un qui a appelé la police pour nous dénoncer en disant qu'on collait des choses ou qu'on faisait des choses. Enfin, je ne sais pas trop ce qui a été dit. Et la police est arrivée, on était en centre-ville, et avec deux fourgonnettes à nous coincer dans une rue. Et ça a été un peu violent parce qu'ils sont descendus à 10 ou 12 en appelant des renforts. Enfin, on avait l'impression d'avoir fait un crime alors qu'on collait juste des bouts de papier sur des murs, la plupart du temps en plus abîmés ou abandonnés.
Quoi, IL sont arrivés en cow-boy, descendus, ni bonjour ni merde. Ben, tu sais, en gros, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites vos pièces d'identité, s'il vous plaît, nanani, nanana, etc., etc. Une fois, on s'est fait emmerder, on avait collé ni Marine, ni Macron, on avait ni Zemmour, ni Le Pen, je sais plus ce qu'on avait mis. Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron. Non, il n'y avait pas. Zemmour crève, il est resté super longtemps, à Tarentaise. Mais donc, ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron. Je ne sais plus, il y a un gars qui est venu le décoller et il était défoncé. Un très grand blond qui se croyait tout permis parce qu'on était 5. Et le gars, il est arrivé, il a tout décollé. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et après, je ne sais plus, il y en a une qui s'est interposée et qui lui a dit, non, mais en fait, t'es défoncé là, donc calme-toi. Et il s'est calmé parce qu'en fait, il était un peu défoncé aussi. Et du coup, on a recollé. Mais tu vois, il y a des trucs. Souvent, c'est des gars qui peuvent être même tout seuls et qui se disent, mais en fait, elles sont 6. Enfin, elles sont 6, 5, 6, 7. Mais en fait, on s'en tape. Moi, je suis un gars, j'arrive, je fais ce que je veux, en fait, tu vois. Du coup, il y a un rapport de force dans la rue qui est quand même compliqué et qu'on cerne de plus en plus. J'ai intégré le collectif il y a 2 ans, tout juste 2 ans, en juin. En fait, avant, j'étais engagée plutôt dans le zéro déchet, dans une asso que je respecte toujours, mais pour moi, je trouvais ça un peu très bobo, très... Après, c'est toujours des causes qui m'intéressent, mais c'était plus là-dedans que j'avais envie de lutter. Et ça faisait longtemps sur Instagram que je voyais des collages super cool et super vénères. Et en fait, je crois que j'avais envie que ça bouge. Tu vois, là, zéro déchet, je leur disais, allez, mais on va jeter toutes les poubelles par terre et tout, que les gens, ils se rendent compte de ce... Enfin, tu vois, j'avais envie d'action, en fait, d'aller dans la rue, de faire des trucs qui soient visibles, quoi. Parce que faire des ateliers tawashi, enfin, c'est bien. Non, mais tu vois, le dimanche matin, à T'as tout juste, où il y a des gens qui gagnent entre 3 et 4 000 euros. Alors, c'est très réducteur, ce que je dis, mais... Bref, du coup, j'avais envie de lutter autrement. Et donc, j'ai écrit sur Instagram aux personnes qui s'occupent d'Instagram des coloreuses. Et on s'est rencontrés, on a bu des coups. Et après, on est allé coller. Après, on a rebu des coups et on est allé recoller. On a peint. Et ouais, on a créé des relations particulières aussi avec les personnes qui sont souvent là, qu'on retrouve souvent.
Moi, ça fait depuis, je dirais, septembre 2019 que je colle. Et je trouve que c'est une façon de s'intégrer dans une... Enfin, disons, je connaissais déjà la ville, mais en tout cas, pour s'intégrer dans un collectif féministe, c'est une bonne porte d'entrée parce que ça nécessite pas... j'ai l'impression qu'on n'a pas le besoin de se sentir légitime ou de savoir un tas de choses sur le féminisme pour intégrer ces collectifs. Donc à Dijon, c'était le cas, et puis on était une belle bande de copines, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé là-dedans, pour ensuite intégrer d'autres collectifs. Et à Nantes, c'était pareil, Saint-Étienne, c'était vraiment des villes dans lesquelles je venais d'arriver, Et en fait, intégrer les collages, c'était une façon d'intégrer le réseau féministe des villes, quoi.
Ah bah moi, je me sens bien. C'est une façon de militer où pour moi, personne ne se met en avant. C'est quelque chose de collectif. Normalement, on est anonyme et personne n'est censé savoir qui est derrière les collages. Donc ça peut être un peu n'importe qui. Ça peut être ta mère, ta sœur, ta pote, ton pote aussi d'enfance que t'as pas revu depuis 10 ans. Il s'est passé des choses dans sa vie et elle a besoin de revendiquer. Donc moi, j'aime bien. Ouais. Et en plus, on rencontre des gens de tout type. Vraiment, des gens qui parfois te ressemblent un peu, mais des fois pas du tout. Et en fait, on a cette chose en commun qui est la lutte contre le patriarcat et cette sororité, cette adelphité entre nous parfois.
Et en faire.
J'ai l'impression de faire du courage.
Oh non, pas sur une autre fille.
Il y a deux feuilles. Oh là là.
Tu veux pas essayer de le coller?
Ah non, mais éloigne pas.
Parce que là, on va rien comprendre. Déjà, personne ne voit.
Mais arrête, si. Putain, mais il y a un sub qui m'a jeté.
Allez, j'aime pas ça. Je le fais vraiment pour toi. On l'a collé au moins 10 fois là.
Lorsqu'on colle et lorsqu'on est en groupe de personnes sexisées dans la rue et dans la nuit, c'est trop cool, quoi. On passe vraiment des bons moments, c'est hyper... on se sent hyper puissante, ça change. Moi, c'est vraiment des moments qui me portent et qui me donnent beaucoup de force, quoi. Donc, du coup, oui, sur le moment, ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Et du coup, oui, après, ça, cette force-là, elle reste, quoi.
Soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola, soy Teresa, soy la burrera, na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
El feminicida.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas.
Quand on est plusieurs, on n'y pense même pas, en fait, ça c'est sûr. Ou alors on se dit qu'en fait on est neutre et que s'il y en a un ou une qui se fait agresser, bah, on sait qu'on sera là pour les autres. Donc c'est assez rassurant. Mais j'ai déjà entendu des chouchous dans le collectif qui étaient très stressés de sortir la nuit et que des fois même on ramène en voiture après parce que voilà... ça leur a fait du bien, en tout cas ça a changé, ça leur a permis de ressortir seule la nuit aussi, qu'elle ou Yel n'arrivait pas avant.
Je sais pas,
il y en avait un peu en haut mais peut-être pas en bas.
Il dans le sang.
Bah, y a preuve de sa faiblesse encore, hein. Il va falloir y aller. Hein.
Ça boit.
Ça fait penser qu'on avait mis de la neige dans le...
Dans ah ouais, c'était
dans...
là.
Ouais, dans le seau, là.
Ah oui, c'était drôle. Ah oui, la neige.
C'est trop froid. Ah oui.
On souffle dessus pour qu'elle fonde.
On essaie d'inverser le cours des choses. On essaie de renverser la balance. Parce qu'il y a trop d'injustices. Il y en aura peut-être toujours, mais en tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut pour... parce que nous, on n'en peut plus, et du coup, on colle sur les murs ce qu'on a à dire par rapport à ça.
En fait, j'ai l'impression de construire quelque chose en dehors de la société, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie, on se rencontre. Il y en a qui sont plus ou moins disponibles. Enfin, il y a une certaine liberté aussi de militantisme. Il y a une forme de solidarité. Et moi, je me trouve très libre là-dessus, sur cette façon de militer, en tout cas.
Ça me donne de la force, en fait. Enfin, vraiment, les gens, on est là. Enfin, en fait, il y a des personnes qui ont des blessures béantes, mais qui ont une force franchement extraordinaire. Et moi, ça me nourrit grave.
À trois, c'est dur hein, quand t'as une main.
Des fois, quand on prend des risques, en fait, ça fait monter un truc. Enfin, quand on l'a fait, on se sent encore plus puissante, quoi. Personnellement, j'aimerais bien passer un niveau au-dessus des fois. Je sais pas, faire d'autres choses. Bah, on a fait une banderole qu'on n'a pas encore affichée, mais ouais, monter sur le crassier, je sais pas, faire des trucs un peu plus d'envergure, faire des trucs, tu vois, pourquoi pas aller coller sur la mairie, ça on s'est jamais trop posé, mais après on prend davantage de risques, donc c'est aussi s'engager sur d'autres choses, quoi, sur d'autres plans. On verra.
Merci aux coloreuses du collectif Collage Féministe de Saint-Étienne pour leur temps et pour leur accueil. Merci à Radio Dio et tout particulièrement à Loïc. Dans ce documentaire, vous avez pu entendre les chansons Giant et Elude de l'artiste Labelle, ainsi que la chanson Canción Sin Miedo de l'artiste Vivir Quintana. C'était un documentaire de Marie Bobichon. Pour Radio Dio.
Radio Dio. 89.5 FM.
Vous venez d'entendre le documentaire Collage Féministe réalisé par Marie Bobichon, initialement pour Radio Dio, nos amis de Saint-Étienne, et qui passe donc aujourd'hui sur Canal B. On va faire une première pause musicale dans les héroïnes. On va écouter Fantasy Girl de Donna Blue.
I'm
Donna Blue et son nouveau morceau Fantasy Girl sur Canal B dans les Héroïnes. Lucie Loimpre, journaliste en charge de l'info locale à Canal B, productrice de l'émission L'Arène sur cette même antenne et également chroniqueuse pour les Héroïnes, a rencontré cet automne Marie-Paul Bernicot. Marie-Paul Bernicot, elle est coordinatrice de la filière endobrèse et donc avec Lucie, elles ont parlé endométriose et on écoute cette interview tout de suite.
Alors endobrèse est présenté comme un réseau de professionnels qui est assez récent puisque lancé en 2021. C'était quoi l'impulsion au lancement d'Endobrèse ?
Alors l'impulsion, c'est un petit peu en précédant la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. C'est la volonté en fait des professionnels, notamment portés par le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, de monter, de mettre en place des structures, des filières de santé pour accompagner la prise en charge de l'endométriose en France. Et c'est dans ce cadre-là que la filière bretonne s'est montée au fin 2020, début d'année 2021, avec une équipe régionale pluriprofessionnelle et de nombreux établissements de la région, avec une représentation régionale pour monter cette filière de prise en charge de l'endométriose.
Une filière qui a été mandatée par l'Agence régionale de santé, et donc il y en a 8 autres aujourd'hui en France, des filières de genre, dont 4 en région parisienne. Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche une femme sur 10. C'est aujourd'hui la principale cause d'infertilité en France, médiatisée en regardant un petit peu depuis un petit peu moins de 10 ans, notamment au départ avec des personnalités, des stars qui ont révélé être atteintes d'endométriose. C'est comme ça que le sujet, en tout cas que la parole a été un peu libérée sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer simplement ce que c'est l'endométriose ?
Alors l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui est dite bénigne, gynécologique. En fait, c'est le développement de cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Donc en fait, c'est au moment des règles, des cellules de l'endomètre qui vont migrer, refluer au travers des trompes pour venir s'installer dans la cavité péritonéale. Et ces cellules, une fois installées dans la cavité péritonéale, au lieu d'être détruites par le système immunitaire, vont se fixer et vivre pour elles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont être hormonodépendantes. Donc chaque mois, elles vont être amenées à réagir comme si elles étaient dans l'utérus, comme si c'était des cellules d'endomètre dans l'utérus, sauf qu'elles ne sont pas dans l'utérus et que du coup, elles vont continuer à saigner et se fixer aux autres organes qui sont dans la cavité péritonéale.
Le rectum, la vessie, les ovaires aussi ?
Tout à fait. Donc il y a plusieurs formes anatomiques de l'endométriose. Il va y avoir fixé aux ovaires ce qu'on appelle les endométriomes, donc qui vont former comme des kystes. Il va y avoir une endométriose qui est dite plus superficielle, qui vont être les cellules qui vont venir tapisser les organes, le péritoine, les ligaments utérosacrés. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle aussi l'endométriose pelvienne profonde, qui va venir se fixer vers la vessie, vers le rectum, et qui va pouvoir s'ancrer, en tout cas venir se fixer sur ces organes-là et devenir adhérentiel. C'est ce qui explique les douleurs qui sont ressenties. Et puis la quatrième forme d'endométriose qui existe, c'est l'endométriose qui est dite utérine, c'est l'adénomyose. Donc c'est au niveau de l'endomètre, la muqueuse utérine, qui va se déformer en quelque sorte, puisque les cellules n'ont plus tout à fait le même aspect. Et c'est ce qu'on appelle l'adénomyose.
Vous évoquez des douleurs, donc des douleurs qui peuvent être très fortes hein, pour les patientes qui souffrent d'endométriose. Douleurs, alors on pense souvent aux douleurs menstruelles, mais c'est des douleurs qui peuvent être ressenties à d'autres moments du cycle.
Tout à fait. En termes de douleurs, on parle pour les femmes atteintes d'endométriose de 70% qui ont des douleurs invalidantes ou des dyspareunies. Dans les dyspareunies, ça va être les douleurs pendant l'acte sexuel. 50 à 60% des femmes qui sont atteintes d'endométriose, du coup, vont avoir une diminution de leur activité sportive du fait de ces douleurs-là, des troubles de l'appétit ou du sommeil. Et 30% d'entre elles vont avoir leur activité habituelle perturbée. Donc, c'est un vrai handicap silencieux que d'avoir une endométriose avec des douleurs invalidantes. Donc on parle bien de 70%. Donc il y a aussi toute une partie des femmes atteintes d'endométriose qui n'ont pas de douleur. Et c'est l'endométriose qu'on dit asymptomatique et qui ne va pas avoir besoin d'être traitée puisqu'elle elle n'apporte pas, elle n'impacte pas sur la vie de la personne. Sachant qu'aujourd'hui, ce sont des traitements hormonaux qui vont venir contrecarrer l'évolution de la maladie ou en tout cas atténuer ses symptômes, mais on ne guérit pas de l'endométriose. Il n'y a pas de traitement pour guérir de l'endométriose.
On a parlé de la douleur, donc des douleurs pelviennes, donc dans le bas-ventre. Il y a aussi un impact parfois pour certaines patientes sur la digestion, aussi au niveau urinaire. C'est pas que des douleurs au ventre.
Tout à fait. Dans le spectre des symptômes de l'endométriose, pour les professionnels de premier recours que sont les médecins généralistes, les sages-femmes, on leur parle quand on fait les formations de la règle des 5D. Les 5D, ce sont les douleurs de règles, donc les dysménorrhées intenses, là qui ont vraiment lieu pendant les règles. C'est sur une échelle analogique sur laquelle on peut estimer la valeur, on est supérieur à 7. Donc on est vraiment sur un impact qui est résistant à des traitements antalgiques, qui peut entraîner un absentéisme au travail ou à l'école et qui du coup peut être associé à des malaises ou des vomissements. Donc ça, c'est le premier dé, les dysménorrhées. Ensuite, il y a les douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle les dyspareunies profondes, la douleur à la défécation, c'est ce qu'on appelle la dyschésie, avec la possibilité d'avoir du sang aussi pendant ce temps-là. Les symptômes urinaires sont appelés les dysuries. Et ces deux phénomènes-là ont une recrudescence pendant les règles. Donc c'est aussi un élément pour en prendre compte dans le cadre de l'endométriose. Et puis on va retrouver les douleurs pelviennes chroniques. Et là, effectivement, on est en dehors des périodes spécifiques aux règles, parce qu'en fait, ça peut être lié à une hypersensibilisation pelvienne et périnéale. Ça veut dire qu'en fait, à force d'avoir mal, on hypersensibilise le système nerveux et on commence à avoir de plus en plus mal et tout le temps. Un autre dé qui pourrait être rajouté, c'est effectivement les problèmes d'hypofertilité qui peuvent être liés à l'endométriose, à la façon dont la pathologie s'est installée dans le corps de la femme.
25 à 30% des patientes qui souffrent d'endométriose rencontrent des problèmes d'infertilité et ce sont justement parfois ces difficultés à avoir un enfant qui alertent la patiente lorsque l'endométriose est silencieuse. Vous en avez dit un mot, ce qui du coup peut être encore plus surprenant pour la patiente.
Oui, tout à fait. C'est une porte d'entrée. L'infertilité est une porte d'entrée pour révéler de l'endométriose. Vous l'avez dit, c'est 25 à 30%, voire 50% qui vont avoir une infertilité. Mais quand on est chez les femmes infertiles, c'est 70% qui ont de l'endométriose. Donc effectivement, il y a un gros enjeu au travers de ce repérage de la maladie pour la prise en charge de ces femmes et puis pour pouvoir justement aussi proposer de la préservation de la fertilité, d'autant plus tôt que la pathologie est avérée et diagnostiquée.
La première étape pour ces patientes, c'est donc le diagnostic. Il est long à poser, 7 ans en moyenne. Est-ce que justement les choses peuvent bouger quand il y a une filière de santé qui se constitue ?
C'est l'objectif. 7 à 10 ans aujourd'hui, effectivement, pour poser un diagnostic d'endométriose. Alors, la difficulté, c'est que ce sont des symptômes qui sont assez diffus, qui sont assez longs à corréler et faire en sorte que le diagnostic puisse être réellement posé. L'objectif, effectivement, de la filière, c'est d'améliorer la formation des professionnels, la connaissance et la reconnaissance de cette pathologie pour les professionnels de premier recours, pour les professionnels, les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues, pour qu'ils puissent proposer un traitement d'emblée, notamment hormonal, pour arrêter les règles, puisque ce sont les règles qui vont faire la dissémination des cellules endométriosiques, mais aussi pour prendre en charge la douleur, puisque c'est ça qui est très important aussi dans les dysménorrhées, et notamment chez les adolescentes, c'est de ne pas laisser cette douleur s'installer, puisqu'elle peut être derrière cause d'hypersensibilité et de douleur pelvienne chronique. Mmh. Donc l'importance effectivement dans le cadre de la filière, c'est de pouvoir former ces professionnels-là, c'est qu'ils puissent prendre en charge en proximité les patientes qui viennent vers eux et qui leur annoncent des douleurs, qui leur disent que c'est source d'absentéisme, que c'est source de retentissement sur leur qualité de vie et qu'au travers de cette première prise en charge-là, on puisse limiter l'impact de l'endométriose sur leur vie.
Une question en plus sur la prise en charge, il y a donc des traitements hormonaux, des traitements plutôt antalgiques pour agir sur la douleur et dans certains cas, des traitements chirurgicaux aussi ?
Oui. 30 à 40% des femmes vont avoir un traitement chirurgical. Aujourd'hui, la chirurgie, c'est pas la priorité numéro une. La priorité est de prendre en charge et la douleur et via le traitement hormonal arrêter les règles pour éviter la maladie. Mais la chirurgie, elle va être dans le cadre d'atteintes profondes avec une endométriose complexe. Il est reconnu qu'il y a des récidives dans le cadre de la chirurgie. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de choisir le bon moment de la chirurgie. On dit aujourd'hui qu'une chirurgie dans la vie devrait être suffisante. En revanche, il est important que la chirurgie, s'il y a un désir de grossesse et qu'il y a une indication à la chirurgie, que ça soit le cas, parce qu'il y a 50% de chances d'avoir un enfant à la suite d'une chirurgie dans l'année qui suit.
C'est une chirurgie qui vient détruire les muqueuses en question qui sont hors de l'utérus. C'est comme ça que ça marche ou...
C'est une chirurgie complexe qui a pour objectif d'enlever effectivement l'ensemble des adhérences, mais il faut tout enlever. Dans une chirurgie d'exérèse. Donc, il faut avoir une bonne cartographie des lésions, des gestes opératoires. C'est pour ça que dans des chirurgies complexes, on est sur des chirurgies pluridisciplinaires. Il peut y avoir des atteintes digestives ou urologiques qui vont faire qu'on va avoir besoin d'un chirurgien digestif en plus du chirurgien gynécologique qui va faire l'opération. Donc, il y a une importance à ce que ces dossiers-là soient très documenté, très bien expliqué à la femme aussi dans le cadre de sa prise en charge. C'est pourquoi dans les filières, on met en place des réunions de concertation pluridisciplinaires où on va venir discuter justement selon l'envie de la femme et son besoin aujourd'hui d'être prise en charge parce qu'elle a un désir de grossesse ou parce qu'elle est très 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 douloureuse, de prendre en charge et de savoir quel est le geste chirurgical, s'il y a geste chirurgical ou s'il faut mieux privilégier à nouveau le traitement hormonal en vue de. Donc il y a tout un travail effectivement au sein de la filière. Donc du coup là on est plus dans du niveau secondaire ou tertiaire de prise en charge où on va avoir un regroupement des professionnels dans le cadre de la prise en charge qui va être globale, holistique pour la femme.
En dernier recours, est-ce que l'ablation de l'utérus est parfois envisagée pour des femmes qui n'ont plus de projet de grossesse notamment ?
Elle peut être envisagée, effectivement.
On revient donc à la filière de santé endo-braise que vous coordonnez, Marie-Paul Bernicot. Comment est-ce qu'elle se matérialise, cette filière ? Il y a des locaux ici à Rennes, et puis il y a beaucoup de choses qui se jouent en ligne avec cet annuaire que vous avez construit, de professionnels qui sont formés. Mais il y a quand même une équipe qui est là pour coordonner avec des bureaux.
Alors aujourd'hui, en fait, l'association, puisque c'est une association loi 1901, donc elle fonctionne avec un bureau, un bureau de professionnels de santé qui dirige la structure. Et moi, j'en suis l'unique salarié pour l'instant. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter un espace d'information validé. C'est au travers du site internet qu'on va le retrouver, endobraise.com. Ce site internet est aussi un outil pour les professionnels et pour les patientes d'y retrouver des professionnels de santé qui ont adhéré à EndoBraise. Et non seulement ils ont adhéré, mais ils ont accepté d'être sur l'annuaire, comme vous le disiez. Aujourd'hui, il y a 180 professionnels qui sont sur cet annuaire-là. Il n'y a aucune obligation pour un professionnel d'être sur l'annuaire. En revanche, pour être sur l'annuaire, il a dû adhérer à l'association, passer un e-learning de connaissances. Donc il y a un minimum de connaissances à avoir qui est validé par un quiz pour pouvoir être sur cet annuaire-là. On a plus de 320 professionnels adhérents à la filière. Il y en a un petit peu moins dans l'annuaire. C'est pas un souci parce qu'en fait, c'est de se sentir prêt. Les professionnels qui sont sur l'annuaire, ce sont des professionnels qui vont se sentir prêts à écouter les patientes qui vont arriver vers eux en disant bah, j'ai une suspicion d'endométriose, j'ai des douleurs. Et c'est ça qui est important aussi, puisque c'est ce qu'on disait un petit peu précédemment, c'est la prise en compte de la douleur de la femme et de ses difficultés et du retentissement sur leur qualité de vie qui vont faire qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans la prise en charge de l'endométriose.
Ces professionnels de santé, ce sont des gynécologues, des médecins généralistes, des sages-femmes, mais aussi des chirurgiens, des kinésithérapeutes ou encore des psychologues. Et aussi, on retrouve des patients, des patientes en l'occurrence, qui sont engagés dans la filière de santé endobraise à travers des associations d'usagers, EndoFrance et EndoMind. Ça me change quoi d'avoir des usagers dans un réseau ?
Les usagers sont aussi à l'initiative quasiment des structures, des filières qui existent aujourd'hui. C'est une forte demande de la part des associations. Elles ont été très acteurs de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été mise en place par annonce du président de la République en 2022 et pour laquelle nous avons accueilli à Rennes le ministre de la Santé pour le deuxième comité de pilotage national de cette stratégie. Elles sont très actrices parce qu'elles sont le porte-parole en fait des femmes atteintes d'endométriose. Donc c'est hyper important pour chaque filière de ne pas oublier pour qui on travaille, quelque part j'ai envie de dire, et de les avoir aussi comme soutien et comme rappel que bah, y a des femmes qui souffrent de cette pathologie-là. On ne l'oublie pas, bien entendu, mais c'est aussi être en lien avec elles dans le cadre d'actions qui vont être menées. On soutient l'ensemble des conférences grand public qui vont être faites. On soutient l'ensemble en fait des activités menées par ces associations-là. Celles que vous avez citées, ce sont effectivement les deux grandes associations françaises de patientes. Il y a également Info Endométriose qui est porteuse plus des actions et des campagnes de sensibilisation autour de l'endométriose. Et puis partout en France, il y a des petites associations plus locales, mais qui ont aussi leur rôle à jouer dans le cadre de l'accompagnement de proximité des femmes. Et comme EndoMind ou EndoFrance, elles vont proposer des lieux d'accueil, des échanges entre pairs, parce que c'est aussi important de pouvoir apporter cette information-là, ces échanges qui construisent et qui nourrissent le parcours des unes et des autres dans le cadre de plus global de leur prise en charge globale de la maladie.
Voilà, les héroïnes, c'est terminé pour aujourd'hui et pour 2023. On revient l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien. On va se quitter en musique avec Marine Jean et son titre Me Before You.
I'm in the countryside on my old bike. I'm in the countryside soaking up the sunlight. I wanna tell you how I feel, but I'm nervous. Loosen up the shoulders, grease on the elbows. There's too much tension, learn to let it go. I wanna tell you how I feel, but I'm nervous.
Slowly I'm getting older, slowly I'm getting older. Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.